Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Yann et évidemment nous allons rendre hommage à Gaspard Ulliel. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Pascal.
Vous souhaitiez honorer sa mémoire.
Bah bien sûr, Gaspard Ulliel, c'est l'éternel jeune homme du cinéma français. C'est l'idéal masculin qui a rejoint Gérard Philippe, qui a rejoint James Dean et qui va tellement nous manquer.
Le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, ce nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée et peut-être un début de levée de restrictions. En tout cas, le Premier ministre Jean Castex tiendra tout à l'heure une conférence de presse pour présenter un calendrier précis de levée progressive des dernières restrictions. C'est ce qu'annonce le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Conférence de presse donc à 19h à laquelle participera également Olivier Véran, le ministre de la Santé. Dans l'actualité également, l'effroi dans le Jura, après ce dramatique accident de voiture, 4 lycéens morts, pris au piège dans leur voiture tombée dans un lac. La route était visiblement très mauvaise hier soir, verglacée. Il est encore trop tôt pour dire si le véhicule roulait trop vite. C'est ce qu'indiquait tout à l'heure le préfet du Jura. C'est un cinquième lycéen qui a réussi à s'extraire de la voiture qui a donné l'alerte et fourni les premiers éléments. Et puis du tennis, c'est l'Open d'Australie. Ça va bien pour les Français. Lisez Cornet qui s'est qualifié pour le troisième tour. Qualifié également Benoît Paire qui a battu le Bulgare Dimitrov, 28e mondial.
Ah, ça c'est sûr qu'il fait kiffer, c'est de voir jouer dans des tournois comme ça avec des ambiances pareilles. Tu me mets le même match à huis clos comme l'année dernière, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même match en tout cas pour moi. Il y en a qui arrivent à le faire. Moi, je sais que j'en suis pas capable. J'ai besoin de ressentir un petit peu toutes les émotions. J'ai besoin qu'on me pousse. C'est pour ça que le tennis est beau. C'est pour justement que les gens vibrent avec nous sur le court. Qu'on ait de la pression, qu'on ait du stress, que ça passe par un peu les montagnes russes, que tu sois content. Puis tu perds le troisième set, 7-6, et tu dis, oh non, ça repart pour un set. Et là, tu vois l'autre qui est en pleine forme. Tous les Bulgares qui sautent de nouveau dans tous les sens. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui.
Voilà
pour il en parle bien.
Benoît Paire, oui, il était content. Ah oui, tous les jours qu'il est content.
Il en parle bien.
Bon, à noter également, en revanche, l'élimination de Richard Gasquet, en tout cas, qui a dû abandonner en plein match. Notre météo, c'est avec vous, Peggy. Et plus de soleil donc aujourd'hui, mais pas pour tout le monde.
Exactement, Amandine, puisque dans le sud-ouest, entre le sud-ouest, les frontières de l'est et du nord, là, le ciel reste chargé encore cet après-midi avec quelques précipitations. Alors, sous forme de pluie encore, sur les Pyrénées, de la neige dès 900 mètres et on pourrait encore avoir quelques flocons entre le massif central et le nord-est, parfois en pleine, mais vraiment pas grand-chose. Ailleurs, c'est plus lumineux. Sur le nord-ouest, on retrouve des éclaircies plus larges en allant vers la Manche. Et près de la Méditerranée, le ciel est bien dégagé, mais avec beaucoup de vent. Et puis, c'est mieux cet après-midi aussi en Corse. On va retrouver un temps sec et moins nuageux. Les températures quasi stationnaires, 2 à Langres, 4 à Clermont-Ferrand, ainsi qu'à Lyon, 6 à Lille, Orléans, 7 à Paris, Caen, Cognac et Toulouse, 10 à Marseille, 14 à Montpellier et Bastia.
Et demain, il va falloir se couvrir, température en baisse.
Exactement, moins 4 degrés demain matin à Aurillac, on aura plus de gelée que ce matin, moins 3 à Mulhouse, Montauban, moins 1 à Orléans, à Reims, à Rennes, 1 degré à Paris et Montpellier, 4 à Perpignan, voilà pour la maximale, pour le matin évidemment, et les maximales de l'après-midi seront en baisse également, de 4 à 7 degrés sur le nord-ouest, de 3 à 4 degrés entre la région Rhône-Alpes et le nord-est, et 4 à 6 dans le sud-ouest, jusqu'à 14 quand même près de la Méditerranée. Côté ciel, ça restera couvert le matin du sud-ouest au nord-est, plus lumineux comme aujourd'hui sur le nord-ouest. Ouest et bien ensoleillé toute la journée en montagne près de la Méditerranée avec du vent. Et l'après-midi, globalement, ce sera entre nuages et éclaircies.
Bon, bah, c'est pas si mal. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand il y a des petites bruines.
Là. Oui, on va oublier ça. Demain, il y en aura de moins en moins.
Merci beaucoup, Peggy.
On va se couvrir. Merci, Peggy. Merci, Amandine. Merci à Ludovic Van de Kerkhoff qui était à la rédaction en chef de ce 12h30.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
La mort a frappé haut, avait dit Jean Vilar sur la scène du TNP quand Gérard Philippe avait rejoint les étoiles le 25 novembre 1959. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a repris cette formule quand elle a rendu hommage hier à Gaspard Ulliel, mort à l'âge de 37 ans, au même moment d'ailleurs de la vie précisément que Gérard Philippe, 37 ans. Et comme s'il existait des correspondances troublantes entre ces deux comédiens foudroyés dans leur jeunesse, leur gloire et leur beauté, Gaspard Ulliel était né un 25 novembre en 1984, jour anniversaire de la mort de Gérard Philippe. Nous sommes avec Yann.
Oui, Pascal.
Yann qui souhaitait lui rendre hommage et peut-être au film dans lequel il a joué.
Bien sûr. C'est un garçon absolument éblouissant, éblouissant. Et je me dis que finalement, le destin des gens qui brillent à ce point, comme vous citiez Gérard Philippe à l'instant, c'est peut-être d'être pétrifiés dans le plus bel instant de leur existence quand ils sont jeunes, quand ils sont beaux. Et moi, j'invite vraiment vos auditeurs à regarder les deux grands films qu'il a fait. Il a fait 30 films, à peu près, autant que je me souvienne, sans parler des téléfilms. C'est Jacou le croquant, bien sûr, où il était, mais absolument éblouissant dans le film de Laurent Boutonnat. Et puis, bien sûr, aussi Un long dimanche de fiançailles qui avait eu beaucoup de succès, plus de succès que Jacou le croquant. Mais il faut revoir ces films pour prendre vraiment la mesure de ce que nous avons perdu, qui était un des très grands acteurs français, un représentant du cinéma français et de la France. C'était un produit exportable, si je puis me permettre cette allusion à son métier, en fait. Et voilà, donc on peut que regretter sa mort, évidemment, et puis penser à son entourage. Je crois qu'il avait un enfant assez jeune. Donc c'est absolument terrible. Pardonnez-moi cette platitude, Pascal. C'est le destin de ces étoiles filantes de l'existence et de cette industrie qu'est le cinéma.
Pas toutes, bien sûr, mais c'est vrai que Patrick Devers, qui est un acteur magnifique, est mort à 35 ans. Ça fera 40 ans d'ailleurs cette année. Il était mort le 16 juillet 1982 et qu'il est effectivement dans une forme. Il est entré dans la légende parce que. Il est mort très jeune et au sommet de son art. Gaspard Ulliel avait joué Saint-Laurent, je ne sais pas si vous l'avez cité tout à l'heure, en 2014. Juste la fin du monde également, un film formidable de Xavier Dolan en 2016 qui lui a valu le César du meilleur acteur en 2017. Et puis on pense à ce destin fracassé, à son épouse, à sa compagne en tout cas, le Gaëlle Pietri, avec qui ils avaient eu un petit garçon qui s'appelle Orso, qui a 6 ans. Et c'est vrai que ce couple magnifique, ce couple qui connaît la beauté, la réussite, le bonheur, et qui est fracassé en une seconde par un accident, l'accident qui est arrivé hier, Yann.
Je crois que il y a des gens qui disent que le principe des stars éternelles, comme les gens que vous avez cités, moi j'évoquais Marilyn Monroe, James Dean ou Gérard Philippe, c'est que justement, en fait, ils incarnent l'éternelle jeunesse. C'est Jean Marais dans L'Éternel Retour, par exemple. Des gens qu'on ne va pas voir vieillir, qu'on ne va pas voir.
C'est la malédiction également de ceux qui sont morts à 27 ans.
Bien sûr.
Ah, c'est Jim Morrison. Vous avez beaucoup de rockstars qui sont partis à 27 ans. Mais c'est vraiment... Moi, j'ai été frappé hier de la très grande tristesse, notamment des plus jeunes, forcément, pour qui il était une icône. Les gens de 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ont grandi avec Gaspard Ulliel et qui étaient leur icône à eux, comme chaque génération a ses stars à soi. Et Gaspard Ulliel était aussi une star, une star, j'aime pas ce mot-là d'ailleurs, mais une icône, je sais pas comment dire, une vedette, un phare de leur génération.
Il y avait une telle douceur dans son jeu, en fait, une telle intériorité, une telle humanité, en fait, qu'évidemment les adolescents se projetaient, en fait, dans cet être si sensible dans son jeu. Je sais pas du tout comment il était dans la vie privée, je le connaissais pas, évidemment.
Mais manifestement, il était pareil, puisque tous ceux qui en parlent, comédiens qui ont joué avec lui, j'entendais Thierry Fremaux hier à l'Alpe d'Huez, j'entendais Stéphane Boutsock qui l'avait interrogé et souvent rencontré. Notre ami journaliste spécialiste cinéma d'RTL, tous disaient la même chose sur sa tendresse, sur sa gentillesse, sur sa bienveillance.
C'est un peu un rappel à l'ordre de l'existence, quoi, qui souligne une fois nouvelle, même si on le sait tous, même si c'est une banalité, l'extrême fragilité de la vie, quoi.
On dit tous dans ces cas-là, vous avez raison. Les mêmes banalités, mais il n'y a rien d'autre à dire. C'est Saint Paul, dans la première lettre qu'il adresse aux Corinthiens, dit « La mort vient comme un voleur dans la nuit. » La mort vient comme un voleur dans la nuit. Il est 13h09. Il est 13h09. Yann, on marque une pause. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous avez toujours la parole pour rendre hommage à l'acteur Gaspard Huliel à seulement 37 ans. Il est brutalement décédé après un accident de ski. Yann a été le premier à nous appeler.
Gaspard Huliel, c'est l'éternel jeune homme du cinéma français. C'est l'idéal masculin qui a rejoint Gérard Philippe, qui a rejoint James Dean. Et qui va tellement, tellement nous manquer.
L'acteur est entré en collision mardi après-midi avec un autre skieur au croisement de deux pistes bleues. Samedi, une petite fille de 5 ans est morte aussi sur une piste. Alors forcément, on s'interroge, le ski est-il plus dangereux qu'avant? Invité de RTL Midi, Bernard Pascal Mousselard, le président de l'Association nationale des directeurs de pistes et de la sécurité des stations de sport d'hiver.
Plus qu'il y a, des trentaines, 40 ans, oui, parce qu'il y avait beaucoup moins de skieurs sur nos pistes. La dangerosité vient avec la vitesse, et c'est là que le danger arrive. On est dans sa bulle et on ne s'occupe pas des autres.
Il y a chaque année en France entre 130 000 et 140 000 accidents sur les pistes. Faut-il rendre aussi obligatoire le casque? 32-10, 3-2-20-0.
Nous sommes précisément sur ce sujet avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Monsieur Pro. Oui, voilà, je suis revenu du ski hier. Moi, j'avais jamais fait de ski, j'ai 56 ans. Et j'étais à Villard-de-Lans. Mmh. Allô?
Oui, je vous entends.
C'est l'anarchie sur les pistes. Les gens n'ont pas du tout de casque. Les gens vont sur les pistes vertes de débutants. Les gens confirmés vont sur les pistes vertes. Ça double de tous les côtés, mais c'est l'enfer. C'est infernal. Ça devrait être obligatoire, le casque. Moi, mes enfants n'ont pas voulu que je monte sur les skis sans louer un casque, quoi.
Mais, comment dire, ces dernières années, quand même, le casque s'est généralisé, parce que les gens...
Non, je vous assure, Pascal.
Vous étiez où?
À Villard-de-Lans.
Bah, j'ai le sentiment que sur les pistes, aujourd'hui, plus de la moitié des gens portent un casque.
Non,
j'ai vérifié ça avec notre invité.
Il n'y avait pas 50% des gens hier. Ouais. Quand j'ai fait du ski, il n'y avait pas 50% des gens qui avaient le casque. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Pascal. Je vous assure. Moi, j'ai fait des vidéos, je peux vous transmettre les vidéos, vous regardez sur toutes les vidéos, vous avez tous les gens, ils n'ont pas de casque. Et écoutez, en plus, les pistes arrivent en bas, elles se rejoignent toutes les pistes en bas. La verte, la noire, les rouges, les bleus, toutes les pistes sur les 300 derniers mètres, toutes les pistes se rejoignent au même endroit dans le goulot d'étranglement. Donc automatiquement, entre ceux qui savent pas ce qu'il y a comme moi, parce que moi j'étais jamais monté sur des skis quand même à 56 ans. Hein.
Ah bon? Vous avez fait du chasse-neige?
Ah ben, j'ai les cuisses arrachées même. Hein.
Ah non mais ça c'est intéressant, c'est-à-dire que pour la première fois à 56 ans vous êtes monté sur des skis, donc vous avez fait comme tout le monde le chasse-neige?
Ah, j'ai chassé la neige, oui tout à fait.
Ça commence comme ça. Et puis après, mais vous avez descendu des pistes?
Deux pistes vertes, ouais.
Bah c'est drôlement bien, en combien de temps?
En une journée.
Non mais en combien de temps vous aviez appris, je veux dire
je me suis lancé comme ça sur la piste verte.
Sans tomber?
Ah bah si, je suis tombé. Mais
vous avez pris des cours quand même?
Non.
Ah bah non, vous êtes un génie, hein. Faites attention parce que...
C'est ma belle-fille, justement. C'est pour ça que je vous dis
non,
que
mais
les
là,
gens...
Peut-être que vous-même vous avez vu ça, parce que c'est la première fois que vous allez sur les pistes, vous étiez peut-être un peu plus peureux, parce qu'a priori les gens sont quand même, vous dites c'est l'anarchie. Bon, je trouve que ça c'est... pas mal...
Peut-être qu'avant, c'était pire que ça.
C'est toujours pareil. C'est-à-dire que, paradoxalement, quand il y a beaucoup de monde, c'est là que tu risques le moins. Parce que les gens font plus attention, vont moins vite. Je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez passé un stage de permis de conduire, mais tu apprends que les accidents ont lieu quand il fait beau, en ligne droite, et quand il n'y a pas de soucis. Bon. Et en revanche, quand il neige, quand il y a de la pluie, les gens sont plus attentifs, font plus attention et donc ont moins d'accidents. Parfois, hein, je dis bien, je généralise pas, mais il y a des statistiques là-dessus sur les accidents. Donc là, c'est un peu, ça va dans ce sens-là.
Moi, je vous assure que là, les trois jours que je suis resté à Villard-de-Lans, beaucoup. Et puis même, nous, on a loué le matériel parce qu'on n'a pas de ski et tout. Mes enfants en ont, mais nous, on n'en a pas. Même à la location, on ne vous demande pas de louer le casque. Quoi. C'est vous qui êtes obligé de demander de louer un casque.
Bon, c'est pas mal, Villard-de-Lans, comme station.
Ah, c'est terrible. Pour moi qui n'ai jamais fait de débutant confirmé, c'est terrible.
Vous êtes allé quel jour?
Je suis allé mardi. J'ai skié lundi et mardi.
Deux jours de ski dans les pattes, si j'ose dire, vous avez.
Oui.
Et donc là, on est jeudi, donc vous êtes déjà de retour, lundi et mardi. Et ouais. Écoutez, moi je trouve que c'est une bonne idée de commencer, quelque chose à n'importe quel âge, c'est toujours une bonne idée.
Je vais refaire, de toute façon, parce que j'aurais même dû faire avant, parce que c'est vrai que c'est agréable.
Monsieur Boubouk qui est avec nous. Monsieur Boubouk, parfois, il y a des choses que vous ne savez pas ou que vous ne savez pas faire. Là, vous êtes un enfant de la neige.
Oui.
Vous êtes très doué en ski. Valorisez-vous quand même.
Non. Je n'ai jamais fait de ski de ma vie. Pascal,
vous êtes né en Savoie.
Alors que j'habitais, en bas des pistes. Non, mais c'est vrai. Pascal, écoutez.
Mais c'est pas possible. Non, mais vous le faites exprès.
Je ne fais que de la luge. Je ne maîtrise pas le ski. Je ne fais que de la luge. Je suis un passionné de luge.
Mais vous êtes le seul enfant né en Savoie qui ne sait pas skier.
Mais je pense. Unique. Bah oui, à vos souhaits.
Vous m'en faites éternuer, cher ami.
Eh bien, écoutez.
Bon, allez, plus que nous dit-on
plus
sur les réseaux
Pascal, sur nos réseaux sociaux, beaucoup d'émotions, évidemment. Martin nous écrit, c'est triste et dramatique pour lui et sa famille. J'adresse toutes mes pensées à ses proches. José nous écrit, le cinéma français est en deuil. Et on finit avec Evelyne. Il faut que le casque soit rendu obligatoire, ça devient impératif.
Ben merci beaucoup. Demain, vous serez peut-être à Saint-Germain-l'Auxerrois, cher monsieur Boubouk.
Pourquoi, Pascal ?
Ben, c'est la messe anniversaire pour la mort de Louis XVI, comme vous le savez.
Ah, et oui,
les royalistes.
Non, mais j'y serai.
Les royalistes se réunissent, arrive, au petit matin, à Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris, pour saluer, ou non, pas saluer d'ailleurs, mais rendre hommage à Louis XVI. On en parlera peut-être demain, puisque demain, c'est donc l'anniversaire de la mort de Louis XVI.
Allons-y.
1700. Vous le savez, monsieur Boubouk.
Attendez, Pascal, je retourne au travail. Je peux pas. Voilà. Je suis pas partout, moi. Allez, merci.
1793, comme vous le savez. 13h18, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et je salue l'ami Laurent Tessier.
Nous pouvons nous redire bonjour.
Bien sûr. Mais salut,
toujours se dire bonjour plusieurs fois.
Bon,
ça fait
bien sûr, je le salue de nouveau.
Utilisez-vous une voiture sans permis ? Tiens, voilà une question qui peut vous faire réagir dans quelques minutes.
Si vous n'avez pas de permis, oui, c'est une solution.
C'est sûr, il y a un véritable engouement. Plus 82% de ventes l'an dernier, c'est historique. Et vous avez peut-être suivi le défi lancé ce matin sur RTL. Christophe Bourroux, Jonathan Griveaux, ils sont partis un petit peu avant 5 heures pour un trajet entre Paris et Chartres. En voilà une aventure, ils ont tout connu. Tiens, quelques minutes après leur départ.
On a parcouru à peu près 6 km, on est à Suresnes. Et là, à l'instant, c'est une route limitée à 50. On a été flashé à 33 km/h, alors que nous sommes à fond, puisque ces véhicules sont limités à 45. Donc là, c'est impeccable.
Ah ben, c'est un concept. Hein. Christophe et Jonathan sont en train d'arriver à RTL, ils doivent nous écouter. On scrute leur arrivée à la fenêtre.
Mais oui, parce que on peut peut-être savoir où ils sont. Non, d'ailleurs, ça marche incroyablement bien, d'ailleurs, la connexion dans leur voiture. Je ne sais pas s'ils sont toujours branchés ou pas, mais.
Ils ne sont pas branchés, on va les
contacter. Branchez-vous, les amis.
C'est un peu l'arrivée du Tour de France. Si vous voulez, on les suit. Ils sont en train de rentrer dans Paris.
On peut les suivre à pied, je pense.
Que dites-vous, Damien Béchot ?
Je pense qu'on peut les suivre à pied.
On peut les suivre.
Ils vont tellement vite.
Ça, c'est... Bah, dans Paris, on peut se marrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les embouteillages, que t'y une voiture qui roule vite ou pas, là,
change rien.
Voilà, t'es plutôt immobilisé. Gilda est avec nous. Je le salue, Gilda, qui est personnel soignant. Et je rappelle que 27 230 patients sont hospitalisés. En France, c'est plus 704 lors des dernières 24 heures. En revanche, 3852 patients sont en réanimation. C'est 29 de moins que la veille. Il y a eu en France hier 231 décès et 436 167 personnes ont été testées positives. Gilda, bonjour.
Bonjour Pascal.
Dans la galaxie des personnels soignants, vous faites quoi ?
Et moi, je suis médiateur Covid, donc je suis à 100% Covid, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout ce qui est tracing et tout ce qui est test auprès des gens. Donc, les chères personnes que vous voyez habillées en combinaison avec un petit coton-tige dans les mains, et ben voilà, c'est nous.
Et ça, vous faites ça dans quel cadre ? À l'hôpital ?
Alors, moi, j'ai fait ça un peu partout, et là, aujourd'hui, je suis dans une pharmacie.
Et vous êtes, alors, évidemment, le point de vue des personnels soignants, c'est il est souvent de vouloir continuer les restrictions.
Mais non, mais on n'en est pas, on n'est pas à ce point-là, on n'est pas aussi méchant que ça. Mais...
Non, mais non, je le comprends, vraiment, je le comprends, oui, parce que non, vous non, êtes, mais... vous baignez dedans, si j'ose non, dire, donc je comprends que... ça, je vous assure, ouais. Je ne vous en fais pas le reproche.
Non, non, mais on donne beaucoup d'infos quand on teste les gens, on ne fait pas que tester, on leur donne beaucoup d'infos sur la suite, surtout quand on a les gens positifs. Et c'est vrai que ça fatigue un peu tout le monde d'avoir, se dire qu'aujourd'hui, il y a encore des restrictions. Maintenant, comme je dis toujours, mais qu'est-ce qu'on a comme restriction? Ok, il y a la boîte de nuit, elle est fermée. Okay,
non, c'est pas ça les restrictions. Moi, ce qui alors je le dis sans arrêt, c'est les masques pour les enfants.
C'est ça.
Je suis désolé de vous le dire, les masques pour les enfants, les masques à l'extérieur, les masques, c'est pas possible quoi de continuer. Il y a une jeune génération des gosses de 6 ans, 7 ans à qui tu obliges d'avoir un masque en récréation.
Et le problème, en plus, c'est qu'ils sont mal portés, ils sont tout ça, ils sont pas changés régulièrement, etc., etc. Même s'il y a du personnel de maternelle ou qui s'occupe de tout ça, mais c'est vraiment pas évident, quoi. Donc c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'on peut pas penser à faire des restrictions selon les régions, repartir sur se dire voilà, ici dans telle région, on est calme sur les chiffres.
Non, je crois que. Mais quand vous voyez en Angleterre, par exemple, que toutes les restrictions sont stoppées. Non, Qu'est-ce que vous en pensez?
Non mais il y a un moment en Angleterre, on n'est pas du tout dans les mêmes restrictions, hein, parce que là c'était les pubs fermés à 22h, et on est aussi sur un truc qui est campagne électorale, donc c'est pas évident non plus. C'est-à-dire que là c'est de la restriction qui n'ont non plus sanitaire, qui ont été enlevées, mais plutôt politique. Donc c'est ça le problème.
Mais Gildas, vous admettez quand même qu'on a changé d'épidémie.
Que
Omicron n'a rien à voir avec Delta, qui n'avait rien à voir. Aujourd'hui, malgré... c'est extraordinaire quand même. Il n'y a jamais eu autant de contamination et les réanimations n'ont pas explosé.
Pour l'instant, non. Maintenant,
pour l'instant, on a un peu de recul quand même. C'était vrai en Afrique du Sud, c'était vrai en Angleterre et c'est vrai en France.
Alors, après, comme je dis toujours, le problème qu'on a avec les enfants, c'est qu'ils sont hyper contagieux. C'est vrai que c'est un truc de dingue. Moi, je le vois, je teste un enfant, je sais que dans les 4 jours, j'ai toute la famille qui suit derrière. D'accord? Alors, dès que c'est pas vacciné, c'est dans les 2 jours. Et quand c'est vacciné, c'est dans les 7-10 jours où j'ai le reste de la famille qui est atteint. Voilà. Donc ça, je le sais, je le vois en permanence. Ça, c'est ce que je vois sur le terrain. C'est pas des chiffres.
Mais ça montre bien, ils sont tous masqués, ces enfants, et parfois tous vaccinés. Ça montre bien que ça sert pas à grand chose qu'ils portent le masque.
Vous savez bien non plus qu'à l'école, même à la maternelle, tous les enseignants vont pas se battre toutes les 5 minutes à monter un masque.
C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Donc, je veux bien qu'on m'explique que la vaccination, j'ai compris qu'elle protège contre les cas graves, et tant mieux. Et c'est déjà ça. Mais manifestement, quand tu as 500 000 contaminations par jour avec une 90% de gens qui vont vacciner, manifestement, ce vaccin n'empêche pas la transmission.
Alors, il contamine beaucoup moins, on peut l'attraper, ça c'est clair, mais on n'est pas hospitalisé.
Je suis bien d'accord avec vous, et déjà sa mission est remplie à mes yeux.
Voilà. Revenir au masque, Pascal, c'est pas que protéger les enfants, c'est aussi protéger les personnes enseignantes qui est là en permanence. Donc déjà, moi ce que je voudrais, c'est que les enseignants aient des vrais masques, qu'on arrête avec leurs masques en tissu, là, je ne sais pas d'où
ils ont des FFP2 qui ont été commandés.
Ouais, d'accord. Mais je sais pas, ils n'ont pas dû les recevoir.
Il y en a 5 millions qui ont été condamnés. Ouais. Mais vous avez vu la petite manifestation devant le ministre de l'Éducation nationale hier? Il y avait un sosie de Blanquer et il y avait des enseignants, j'imagine, qui ont fait une sorte de fête improvisée pour pour moquer le fait qu'il était à Ibiza, pour singer une rêve partie à Ibiza. C'était ça l'idée de cette petite fête improvisé devant le ministère de l'Éducation nationale.
Non, mais après, je peux les comprendre qu'ils sont en colère, parce que c'est vrai qu'ils sont en première ligne avec les enfants, entre les parents. Le premier protocole, c'était un enfer, mais même pour nous, qui avons subi ça de plein fouet. Et même encore aujourd'hui, quand aujourd'hui, vous avez un enfant qui a été positif, qui revient au bout de 10 jours et qu'on demande à tout prix qu'il ait un test négatif, sachant qu'un enfant, s'il est testé, qu'il a été positif, pendant quelques mois, on peut encore trouver des traces et qu'il peut être encore positif sans être contagieux. Et on embête les parents à aller refaire des tests et des tests et des tests. C'est du grand n'importe quoi. Alors vous leur dites non, il n'y a pas besoin, parce qu'il est plus contagieux, mais si, parce qu'à l'école ils ont besoin du papier, sinon ils veulent pas prendre l'enfant. Ça devient infernal, quoi. Donc voilà, c'est très très compliqué. Donc c'est vrai que ces restrictions là, si elles peuvent être enlevées, ce serait plus simple, ça serait sûr.
Merci Gilles de cette explication et de vos analyses. Merci beaucoup. On marque une pause et à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Tessier.
Parlons d'une activité très pratiquée.
Ce soir, je passe à la télé.
Combien de temps regardez-vous chaque jour la télévision ? Médiamétrie a calculé une durée d'écoute globale, 3h. Et 41 minutes par jour. Alors, est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous regardez moins
la
télévision ?
Je dois être moins que ça, moi. Mais je ne la regarde pas. Alors, elle est toujours allumée dans le bureau. Mais je vous remercie, oui. Mais je la regarde un peu moins que ça, je pense.
On voit aussi un engouement pour l'information. Les téléspectateurs ont passé 18% de temps en plus devant les programmes d'info. Alors, par contre, la durée d'écoute des 4-14 ans est en baisse de 20%. Mais appelez-nous pour parler télévision.
Parce qu'ils consomment l'image sur d'autres supports que la télévision, sur les tablettes, l'ordinateur, etc. Monsieur Boubouk, vous êtes dans les statistiques.
C'est-à-dire, Pascal, oui, je regarde la télévision.
Vous n'écoutez pas
sûr,
peut-être ce dont on parlait. Je vous réveille peut-être.
Mais
vous
non, non, non,
faisiez
une petite sieste. Non, mais je regarde Fort Boyard, typiquement.
Fort Boyard, oui.
Je regarde ou Danse avec les stars.
Ma sorcière bien aimée.
Oui. Danse avec les stars, c'est romantique, Pascal. Ça m'apprend un petit peu à danser, etc.
D'accord. Et Damien, vous êtes dans les statistiques, 3h40.
Beaucoup moins des statistiques, je pense, Pascal.
Un petit peu moins, oui, bah, effectivement, parce que vous avez une vie professionnelle intense, donc vous ne pouvez pas. C'est souvent les jeunes, évidemment, les inactifs qui regardent beaucoup. Oh, qu'est-ce qui se passe ?
Ils sont de retour, Pascal.
Non !
Oh !
Monsieur Bourou est de retour dans la maison ?
Ah non.
Mais ils sont là ou ils sont dans le parking ?
Bah, vous n'entendez pas la tondeuse ?
Ah oui, mais je les... Ah ! Monsieur Bourou ! La
je
tondeuse,
suis là, on est là,
vous êtes
on
où, ami ?
Eh bien, on est à Garches, 12 km de
Neuilly. Vous n'êtes pas arrivé.
Ben non, encore une petite demi-heure, il va falloir patienter.
Ah oui, je pense que Garches, s'il y a un peu de circulation, vous n'êtes pas arrivé. Hein,
alors, rappelons quand même que là, on peut se fier au GPS, parce qu'on rentre dans des zones où c'est limité à 50 et 30. Donc là, le GPS nous dit 14h, donc je pense que c'est bon. Ça va être bon. On va être là pour 14h.
Vous allez passer par où ? Pour aller à Gare.
Justement, on ne peut pas prendre le périph, donc on va prendre Rueil.
Ah, vous n'avez pas le droit de prendre le périph avec votre voiture ?
Non.
En fait, le handicap numéro un de ces voitures sans permis, c'est presque ça, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est pas pratique quand même.
Oui, c'est considéré comme un quadricycle à moteur, donc il y a des restrictions de circulation. Mais enfin bon, c'est vrai que comme le périphérique est dans beaucoup de villes, les périphériques sont embouteillés finalement. Et puis comme on va à une vitesse qui est pas énorme, puisque c'est 45 km/h maximum, là vous voyez, en prenant les petites routes, ça nous a pas handicapé en termes de temps véritablement, parce que finalement on roule pas très vite. Donc
est-ce qu'il y a des gens qui sont surpris de voir deux personnes comme ça dans une voiture et qui se disent c'est quand même très très étrange.
Alors oui, ce qui est surtout étrange, c'est qu'on
est tout seul dans une voiture comme ça.
Oui, et surtout que là on a un casque et un appareil, on pense peut-être qu'on est de la police ou de la gendarmerie, vous voyez. Il y a aussi le réflexe de, il y en a pas mal qu'on croise qui ralentissent ou qui nous regardent un petit peu bizarrement en disant,
pense que vous êtes des policiers.
Voilà, vous savez, les voitures radar qui sont
bien sûr
flash.
Bien sûr,
voilà, donc il y a
pour arrondir vos fins de mois, c'est aussi ce que vous faites, vous flashez les gens. Et vous transmettez. En tout cas, ça marche très bien la liaison, hein.
La liaison est excellente. Merci Jonathan, parce que franchement, c'est un exploit technique et il y a zéro bug depuis ce matin 5h, ce qui est quand même, on est quand même pas mal passé à l'antenne et en roulant dans la voiture, donc voilà, tout est parfait.
Est-ce que vous pouvez passer par ma maison, parce qu'il reste de la pelouse à tondre encore, mais bon, allez loin.
Bon, vous êtes caustique.
Mais vous êtes caustique. Non, mais c'est un plaisir. Écoutez, moi j'adore cette histoire, en tout cas, j'adore vous écouter depuis ce matin. Ça fait ma joie. D'abord, c'est très intéressant. La voiture sans permis, ça peut tous un jour, on peut tous être concernés, parce que si on perd nos points, ça peut être une solution. Même si vous avez dit tout à l'heure que ce n'était plus la cible prioritaire, ceux qui n'ont plus le permis. On vous attend donc dans une petite demi-heure avec Monsieur Griveau dans ce studio. Il est 13h34.
Avec grand plaisir.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
On attend la fin des restrictions. Jean Castex va parler à 19h. C'est quand même une information. Il va parler à 19h aujourd'hui. On est jeudi. C'est le retour de la conférence de presse du 19h. Manifestement, Olivier Rand ne sera pas là. Il est peut-être encore à l'isolement. David est étudiant à Sciences Po à Aix-en-Provence. Bonjour David.
Bonjour Pascal. Ça va ?
Ça va bien et vous ?
Bah ouais, bonne année, hein.
Bonne année, exactement. Qu'est-ce qu'il vous faut vous souhaiter que vous passiez en quelle année la saison prochaine ?
en troisième année, puis peut-être des bons stages pour orienter une future carrière.
Ah oui, ça, je vois que vous êtes en train de me demander un stage à RTL, vous.
Peut-être.
Le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse aujourd'hui. C'est une dépêche qui est datée de 13h06 pour présenter un calendrier précis de levée progressive des dernières restrictions face à l'épidémie de Covid-19. Et c'est Gabriel Attal qui a annoncé cela tout à l'heure lors de cette conférence de presse à laquelle participera également le ministre de la Santé Olivier Véran, vous voyez, il sera présent. Il présentera les décisions prises ce matin lors du Conseil des Défenses et de Sécurité Nationale. C'est la quille ! Dans le temps, on disait ça quand on sortait de l'armée. C'est la quille ! C'est la fin ! David, bon, vous n'avez pas fait l'armée, évidemment, et vous le ferez jamais,
non,
vous avez 20 ans.
Ça n'existe plus, peut-être bientôt, les nouvelles générations feront le service civique si Macron est réélu. Mmh. Mais moi, ce Conseil de Défense, il m'a fait doucement sourire. Les élections approchent lentement. Puis tout le lexique est important. Calendrier d'allègement progressif des mesures. On voit vraiment que tous les mois, on va enlever quelque peu des mesures restrictives. Et voilà, Macron va nous rendre notre liberté juste avant les élections. Je pense vraiment que cette gestion de la crise sanitaire a pris un tournant purement politique, si vous voulez mon avis.
Oui, alors purement, vous. Qu'il y ait évidemment instrumentalisation politique, j'imagine, c'est vrai dans tous les pays du monde, mais comment dire, faire de la politique, c'est aussi parler aux gens. C'est évidemment prendre des mesures pour, pense-t-on, qu'ils aillent bien. Mais quand vous dites c'est de la politique, c'est aussi une politique de la demande, c'est ce que voulaient les gens.
Bien sûr, mais pourquoi ils le voulaient, Pascal ? Ils le veulent parce qu'ils ont peur. Ils ont eu peur pendant un an, donc on a mis des mesures, et là, on entend bien que Macron... n'est plus vraiment favorable, et il y a une opinion assez défavorable de la part des gens, donc forcément on annonce des mesures. Donc de fait, tout est politique, mais quand même, on a quand même une instrumentalisation qui est grossière.
Mais
pour le coup, est vraiment grossière.
Je veux dire, on ne pourra jamais savoir qui de l'œuf ou de la poule. Moi, j'ai le sentiment depuis le départ que l'exécutif a répondu à une demande parce que cette peur existait avant même qu'on l'ait encouragée.
C'est vrai. Peut-être, oui.
Je pense que les gens, ils sont comme ça. Ils ont naturellement, aujourd'hui, avec ce principe de précaution, naturellement, ils sont dans un état d'esprit. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu des enfants il y a 20 ou 25 ans. Bon, je ne leur mettais pas de casque sur la tête quand ils faisaient du vélo.
Bien sûr.
Bon, aujourd'hui, je suis frappé combien les jeunes parents sont incroyablement dans la surprotection avec leurs enfants.
Bien
moi,
sûr.
Quand j'étais enfant, je vous assure, on ne nous surprotégeait pas comme aujourd'hui. On tombait, on tombait. Voilà, c'était pas un drame. Aujourd'hui, vous tombez, vous êtes aux urgences à Necker, à Paris, pour voir si tout va bien. Donc, c'est un état d'esprit général qui a changé.
Bien sûr.
Il n'y avait pas de casque, même il y a quelques années, sur les mobilettes.
Mon père ne mettait pas de casque quand il était jeune et ses parents n'y voyaient aucun problème.
Alors évidemment, moi je veux pas, bien sûr qu'il faut se... C'est toujours, ce qui est difficile dans ces sujets-là, c'est de trouver la bonne décision, de ne pas être esclave des décisions, de ne pas être esclave des normes, de ne pas être esclave des restrictions.
Bien sûr. Il faut conserver son esprit critique et je pense qu'aujourd'hui, malgré toutes les critiques que je peux émettre des décisions du gouvernement, c'est vrai qu'ils prennent peut-être enfin le chemin de la raison en se disant voilà, la vague Omicron est moins meurtrière et moins dangereuse et moins grave que le Delta, donc on annonce un début progressif de l'allègement des restrictions. Donc ça, c'est peut-être la seule chose que je pourrais accorder au gouvernement Macron, malgré tous les errements et les approximations qu'ils ont pu commettre par le passé, quoi.
Merci beaucoup, David. Et puis,
voilà.
Bonne année à vous. Vous êtes en ce moment en examen, peut-être, ça va arriver. C'est les partiels, généralement, en février.
Je les ai terminés il y a une petite semaine.
Mais les partiels, c'est très tôt, maintenant. C'est le 15 janvier, les partiels.
Ah, ça a commencé le 3, même. Ah, ils nous ont pris tout de suite au début de l'année.
merci et bonne journée à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Une pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
et Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous fait appeler en ce moment. Le Premier ministre Jean Castex va annoncer un calendrier de levée des restrictions tout à l'heure à 19h. Faut-il en finir rapidement avec toutes les mesures prises? Faut-il nous permettre de reprendre une vie normale? Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, s'est exprimé il y a quelques minutes.
Ne nous y trompons pas, la situation sanitaire est encore tendue. Le nombre d'hospitalisations reste très élevé et le nombre de cas détectés est encore en sensible augmentation. Mais si nous espérons, comme l'indiquent certains scientifiques, que le pic Omicron approche, nous constatons en réanimation une diminution, une baisse de 15% des admissions en soins critiques et donc le nombre total de patients qui diminue également. Si nous tenons, si nous avons réussi à éviter le scénario catastrophe, c'est bien parce que le vaccin a pleinement joué son rôle de bouclier.
Vous pouvez continuer de réagir au 3210, 3210.
Et nous allons partir pour un département dans lequel nous allons finalement assez peu, qui est la Haute-Corse peut-être avec Chantal ?
Oui, bonjour Pascal.
Nous arrivons à Bastia. C'est vrai qu'on a peu d'auditeurs qui nous appellent de Bastia.
Écoutez, je ne sais pas pourquoi. Moi, en tout cas, j'ai appelé plusieurs fois, mais bon, je ne suis pas passée à l'antenne. Mais donc, d'abord, je voulais souhaiter une bonne et heureuse année à toute l'équipe de RTL.
Eh ben, c'est très gentil. On nous reçoit très bien, en plus. On est sur 104.3 en Corse ?
On est sur... 103.8.
Bon, c'est important voilà. De le dire à tous nos amis corses. 103.8.
103.8, en tout cas pour Bastia.
Oui.
Voilà. Ben, je suis ravie de vous entendre, Pascal. Je vous suis depuis très longtemps, quand vous faisiez du foot, quand vous étiez...
Je suis souvent allé à Bastia. Et vraiment, j'avais beaucoup de plaisir. Et je regrette que Bastia ne soit plus en Ligue 1, croyez-moi, parce que le football en Corse, c'est une religion.
Exactement, mais bon, nous sommes déjà arrivés en Ligue 2, c'est déjà
mais
pas
je suis
mal.
D'accord avec vous, mais vous savez, dans Corse Matin, chaque matin, il y a 3 ou 4 pages uniquement de football dans Corse Matin. Oui. Sur, oui. Évidemment, avec Ajaccio, avec Bastia, il y a deux équipes à Ajaccio, Gazélec et l'AC Ajaccio, donc il y a vraiment une forte demande. Mais on n'est pas là pour parler football, on est là pour parler des restrictions, et vous pensez qu'il faut les lever?
Ah oui, moi je suis personnel hospitalier. Hein, à un moment donné, je n'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont voté le pass vaccinal. Honnêtement, c'est-à-dire que moi qui avais le pass sanitaire, aujourd'hui, eh ben je suis considéré comme plus avoir de vaccin du tout. Là, on va m'obliger à faire la troisième dose, alors que ça ne sert strictement à rien. Vous savez, moi, j'ai fait les deux doses avant même que ce soit obligatoire pour le personnel soignant. Je ne suis pas une anti-vax, je ne suis pas... Et d'ailleurs, personne du personnel soignant n'est anti-vax, parce que quand on travaille dans un hôpital, on a des vaccins obligatoires. Il ne faut pas oublier que, de toute façon, le Pfizer, ce n'est pas un vaccin à la base, c'est un traitement expérimental. Je l'ai fait parce que, comme beaucoup de gens, ben, j'ai eu peur, j'ai des personnes autour de moi fragiles. Là, les restrictions, pour moi, il faut les lever, surtout pour les enfants, parce que je ne comprends pas qu'on puisse faire subir à nos enfants des choses, mais c'est de la maltraitance. Honnêtement, d'abord, ça les bloque dans leur apprentissage. Ce n'est pas normal que les enfants, ils arrivent avec la boule au ventre à l'école. Je veux dire, je ne comprends pas ce système.
C'est le principe de précaution. On a basculé dans une société où on veut ceinture et bretelles, voilà. Et ce n'est que le début, hein, intuition, je pense qu'on a mis là le doigt dans un engrenage duquel il va être difficile de ressortir.
C'est terrible. En plus, bon, il ne faut pas oublier que si l'hôpital est dans cet état... Moi, vous savez, en 2017, il y avait même un de vos journalistes d'RTL qui était venu à Bastia. Mmh. Nous, on avait attaqué une grève de la faim quand même, hein, en 2017. D'accord, j'étais dans un syndicat. Et parce qu'on voulait pouvoir apporter des soins de qualité en toute sécurité à nos patients. Je pense qu'on est... Moi, j'ai même fini sur France 5 à Célébdo, vous voyez. J'étais épuisé après 17 jours de grève de la faim. Donc malheureusement, le Covid n'a fait qu'accentuer nos difficultés. Enfin, comment peut-on fermer des lits en pleine pandémie? Comment peut-on suspendre du personnel soignant qui sont montés au front, hein, le cher Macron, et qui a osé nous dire « on est en guerre, nous on est montés au front sans munitions, sans gilets pare-balles, sans armes, sans rien ». Il y a quand même du personnel, des médecins, des infirmières qui sont morts. Bon, donc, je pense que là, on va nous obliger à faire la troisième dose, sinon on va être suspendu. Je veux dire, on est en plein délire. Surtout que, ou, si le vaccin était vraiment efficace, il aurait fallu le faire obligatoire, ceux qui n'ont pas fait. Alors, pourquoi ils n'ont pas fait? Parce que M. Fabius est quand même président du Conseil constitutionnel. C'est quand même lui qui, à l'époque, quand il était premier ministre, hein, pendant le sang contaminé, avait dit responsable mais pas coupable. Là, c'est sûr que si on l'a fait obligatoire...
C'était Georgina Dufoy qui avait dit ça, mais bon.
Voilà.
C'était pas Laurent Fabius. Mais
oui, c'est vrai.
Que le sang contaminé a été un marqueur pour les politiques qui, aujourd'hui, et je peux là encore le comprendre, mais ils ont peur d'être pointés du doigt s'il y a des soucis sanitaires.
Faisons confiance à nos médecins de terrain.
Oui, les médecins de terrain. Mais faire confiance aux médecins, moi je veux bien faire confiance aux médecins, mais ils disent pas tous la même chose. Donc c'est ça qui est compliqué.
Pascal, si on n'avait pas fait des décrets pour interdire certains produits, et je ne parle même pas du protocole de M. Raoult, il y a d'autres produits qui ont été interdits par décret. Je veux dire, quand on vous dit vous avez un Covid, prenez un Doliprane et attendez, on attend quoi d'être en insuffisance respiratoire au maximum, eh bien on finit à l'hôpital.
Merci Chantal. Est-ce que
il faut les enlever.
Chantal, je partage votre avis, en tout cas il faut en enlever quelques-unes. Est-ce que la notoriété de M. Boubouk est arrivée jusqu'à Bastia?
La notoriété de monsieur...
Boubouk. Vous savez pas qui est monsieur Boubouk, notre ami de la page Facebook?
Non. C'est une vraie réussite dans ce début d'année.
Bon, alors vous saluerez, vous savez que dans le temps on allait toujours... je sais pas si ça existe toujours... Près de Bastia, les joueurs de football descendaient chez Walter. Voilà.
Exact.
Chez Walter, qui est une institution où il y avait des portraits de Dragan Djazic, notamment la grande équipe des années 70 de Bastia.
Oui, l'UEFA.
Et je crois que c'est le fils aujourd'hui qui a repris l'affaire.
Exactement.
Et les équipes de football descendaient toujours dans cet hôtel où on allait.
En tout cas, j'ai été ravie de vous entendre, Pascal Pro. Je vous écoute à la télé, à la radio. Vous avez beaucoup, beaucoup de professionnalisme et merci pour nous tous.
Eh bien, c'est gentil,
de
Chantal.
Porter nos paroles.
C'est gentil, j'ai beaucoup de chance, surtout. Journée. Merci, Chantal. Alors, monsieur Boubouk,
votre grande tournée
en Corse est annoncée pour cet été.
Bah oui, je vais y aller.
Je ne sais pas où vous allez en vacances, d'ailleurs.
Écoutez, Pascal, moi, je suis déjà allé au Cap d'Agde en vacances.
C'est vraiment...
Mais
vous êtes allé au Cap d'Agde, vous n'êtes pas allé dans le village naturiste, rassurez-moi.
Oh non, Pascal, voyons.
Le Cap d'Agde, c'est connu comme cela pour être le village naturiste le plus important de toute l'Europe.
J'ai su.
D'ailleurs, village naturiste qui est certes naturiste, mais qui est aussi... qui est ouvert à quelques, parfois, fantaisies.
Écoutez, Pascal, d'accord. Bah, écoutez, mais j'étais pas au courant.
Vous avez dû être surpris.
On vous a raconté, donc.
Si vous êtes entré dans le village naturiste et que vous n'étiez pas au courant de ce qui s'y passait, ça a pu vous surprendre.
Bon, allez, je vais faire le point, là, peut-être, quand même. Hein. Allez.
Bon. Moi, je n'ai vu que des reportages. Bien évidemment, je suis peu dans le sud-est de la France.
Évidemment, parce qu'il y a des reportages.
Évidemment. Bon, dites-nous tout.
Bah oui, mais bon, sur nos réseaux sociaux, Evan nous écrit.
Ça traîne, là.
Ah bah oui, mais bon, c'est à cause de vous. Hein.
Oui.
Il faut absolument lever les restrictions, selon Evan. On en a marre de ce climat anxiogène. Pierre-Yves nous dit, lever les restrictions signifierait un très fort regain de l'épidémie. C'est une très mauvaise idée, selon lui.
Mais l'épidémie, il y a 500 000 contaminations par jour.
Mais c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Pierre-Yves. Et on finit avec José. Dans le même sens, il est trop tôt pour baisser la garde. Vous m'avez perturbé avec le Cap d'Agde.
C'est vous qui m'avez raconté.
Vous m'avez rendu tout chose.
Tout chose. Une expression intéressante.
Émoustillé.
Bon, ils sont où nos amis Bourou?
Je ne sais pas, Pascal.
Ils sont sur la route.
Oh, sûrement.
On les a ou pas? On peut faire un petit
non,
direct.
Non, ils sont pas là.
14h.
On va leur demander de se connecter.
Bah oui, d'autant
c'est
que long, je l'ai dit,
hein.
Christophe Bourou va partir en trottinette à Chartres. C'est le prochain voyage. Parce qu'il a été allé à Saint-Malo avec une voiture électrique. Là, il va à Chartres avec une voiture sans permis. Et la prochaine fois, donc, il part sur une trottinette destination inconnue. On ne sait pas.
Ça peut être drôle.
On ne sait pas, comme disait le célèbre Benjamin Sportouche. On ne sait pas. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
L'heure du crime à 14h30, mais avant cela, avec Jean-Alphonse et avant le programme de tout à l'heure, nous aurons une pensée aujourd'hui pour Ilan Halimi. Vous savez que le soir du vendredi 20 janvier 2006, c'était donc il y a exactement 16 ans, jour pour jour, après avoir dîné chez sa mère, il rejoint en voiture Yalda, dite aussi Emma, une jeune fille qu'il avait ouvertement draguée dans son magasin une semaine plus tôt. Et cette jeune femme va être à l'origine de l'enlèvement d'Ilan Halimi et par le gang des barbares et par son décès et après les tortures qu'il subira. C'est une des histoires les plus horribles, disons-le, de ces dernières années, une des histoires les plus affreuses. Et ce vendredi 20 janvier est l'occasion de se souvenir et d'honorer sa mémoire, Jean-Alphonse.
Oui, absolument, parce que on est au-delà du fait divers, là. Le gang des barbares, c'est une équipe qui a jamais été aussi bien nommée, on peut le dire, puisqu'ils vont enlever ce garçon, le torturer à mort dans une espèce de cave épouvantable. Et puis le chef, c'est le fameux Youssouf Fofana qui va être arrêté, lui, un mois plus tard, le 22, le 23 février 2006 à Abidjan, où il est allé se réfugier, où il habite. Ça va être aussi le procès de la folie la plus totale, extrême, avec, on va s'apercevoir que ce personnage, il n'y a pas d'autre mot, est complètement fou. Il va d'ailleurs mener, il continue à mener une vie en prison absolument incroyable, désarçonnant, affichant clairement son antisémitisme et puis cette soif de tuer. Donc voilà, c'est en cela, c'est une affaire effectivement qui est épouvantable.
Et j'ai vu que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup voulaient se souvenir d'Ilan Halimi. Et c'est pourquoi nous en avons parlé également. Le programme de 14h30, vous avez alors, 30 secondes.
Alors 30 secondes, la diabolique d'Antibes, c'est l'affaire Geneviève Montillet, un accident de la circulation, presque banal. Et puis on va s'apercevoir que cette femme, eh bien, elle a un parcours criminel hallucinant. Elle a essayé de tuer son ex-mari, elle a quasiment réussi à tuer son compagnon. Et surtout, elle va impliquer dans ses crimes ses propres enfants, ses jumeaux. C'est une famille bourgeoise, hein. On n'est pas dans le quart monde, etc., dans une famille complètement larguée. Et elle va impliquer ses deux garçons dans ses crimes, les manipuler, les intoxiquer, il n'y a pas d'autre mot. C'est pour ça qu'on l'appelle la diabolique du Cap d'Antibes.
Et ce sera à 14h30. La pause, le flash, le retour de nos amis Bourou sur la petite voiture sans permis. Et on parlera de la télévision également. À tout de suite.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Quel calendrier pour la levée des restrictions anti-Covid ? C'est sur ce sujet précisément que le Premier ministre Jean Castex prendra la parole tout à l'heure à 19h. Objectif : donner des perspectives claires aux Français.
Je veux quand même insister sur le fait qu'on part d'un niveau de restrictions et de mesures qui est inférieur à ce que nous constatons chez la plupart de nos voisins. On ne parle pas en France de la fin d'un couvre-feu, de la fin d'un confinement, de la réouverture de restaurants, de bars, de théâtres ou de cinémas. Mais il reste des mesures, je pense notamment aux discothèques, qui sont toujours fermées. Je veux vraiment avoir un mot pour elles, parce que c'est très dur. Ils attendent des perspectives claires, précises pour leur réouverture. Évidemment, elles seront données.
Voilà Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, juste après le Conseil de défense sanitaire ce matin. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame dans le Jura hier après-midi. Un drame qui a coûté la vie à 4 lycéens près de Lens-le-Saunier. Leur voiture aurait glissé sur une plaque de verglas avant de tomber dans l'eau gelée du lac en contrebas. Une cellule psychologique a été mise en place au sein de leur établissement scolaire où ces élèves étaient internes. Mobilisation très faible des enseignants aujourd'hui, surtout comparé à jeudi dernier. Selon le ministère, il y a moins de 2% de grévistes. Les voilà, Christophe Bourou et Jonathan Griveaux. Ils viennent de rentrer de Chartres dans leur voiture sans permis. Quel bonheur de vous voir. Vous n'avez pas l'air fatigué du tout en plus.
Non, mais attends, ce qui fait bizarre, c'est que ça vibre plus.
Mais ils sont fatigués. Faut pas exagérer, ils étaient en voiture.
Vous savez combien d'heures ils ont fait de voiture.
Mais je vous taquine. Mais d'abord, Christophe, il faut le dire aux téléspectateurs, quoi, même aux auditeurs, il est très grand. Et effectivement, en revanche, moi, elle est où la voiture ?
Elle est au parking RTL, là, au garage.
Je vais aller la voir après.
Au deuxième sous-sol.
Ça, c'est dommage, on peut pas. Je vais aller la voir parce que ça m'intéresse beaucoup. Bravo, Jonathan. Parce que c'est Merci. Vous qui avez assuré toute la liaison technique et c'est exceptionnel parce qu'on est bluffé tellement la liaison est parfaite. Bon, racontez-nous. D'abord, c'est pas fait pour ça.
Non, c'est fait pour des petits trajets. Ce que je disais, les trajets en voiture sans permis, généralement, c'est 10 km par jour. Donc, vous voyez, là, on a poussé le bouchon loin puisqu'on a fait 212 km très précisément. Alors, la difficulté, effectivement, c'est qu'on prend des petits axes, des petites routes, puisqu'on n'a pas le droit d'aller sur les autoroutes. C'est interdit. On n'a pas le droit de prendre les périphériques quand vous êtes en ville. Donc, ça, c'est quand même une contrainte. Mais, entre guillemets, le bon aspect, c'est que vous roulez à la même vitesse. Donc, vous preniez des voies rapides ou pas, vous êtes toujours 45 km heure maximum. Pas plus.
Oui, mais c'est pas très pratique. Alors, on va terminer effectivement le rappel des titres. Vous avez tout
j'ai
dit.
Pas le droit de poser une question.
Ah, mais comment? Vous avez tous les droits, Agnès.
Non, je trouvais que c'était fascinant quand même de pouvoir conduire une voiture, peu importe qu'elle soit sans permis ou pas, sans avoir un minimum de connaissances à valider en termes de code de la route, par exemple.
Ça, c'est une bonne question à poser parce qu'effectivement, on peut rouler avec une voiture sans permis sans avoir.
Sans rien savoir.
Ouais, oui. Sauf pour les jeunes, où là, il y a une obligation d'avoir une formation.
Non, mais c'est vrai. Ça ne demande pas le code. Hein. C'est une excellente question, Anna.
Merci.
C'est une excellente
Alors,
remarque.
Pour la peine, je vous dis un mot sur la météo de demain. C'est reparti pour des conditions anticycloniques avec nuages et brouillard le matin dans la moitié nord et le sud-ouest, mais déjà du soleil dans le sud-est et en montagne. L'après-midi, le grand ciel bleu devrait être très présent partout, ou presque. Juste quelques nuages résisteront du centre au nord-est. Vous attendez les courses, Pascal,
oui.
Je le sais.
Mais
les
oui,
courses
oui,
à Vincennes.
Bien sûr, les courses à Vincennes.
Le résultat du quintet, le voici. Le 5, le 6, le 8, le 4 et le 3. 5, 6, 8, 4 et 3.
Il est 14h04. Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Comme il y a eu beaucoup d'interventions de votre part, Christophe, il y a un auditeur de Corse qui, pendant que vous étiez sur la route, vous expliquiez qu'on n'avait pas le droit d'aller sur les autoroutes et sur le périphérique, qui m'a écrit en Corse avec une amie Citroën électrique sans permis, pas de problème, ni d'autoroute, ni de périphérique. donc en Corse, c'est possible. Bon, je disais, évidemment, c'est pas fait pour ça. Bon, vous avez aussi de la chance, si j'ose dire, c'est qu'il n'a pas plu.
Oui.
Aujourd'hui, la route n'était pas glissante et il faisait beau.
Oui. Alors on est quand même parti tôt, donc il faisait nuit, donc c'est un peu les phares n'éclairent pas comme nos phares habituels. En fait, non mais ce que je veux vous dire, c'est que quand
c'est
on
très
va
dangereux dans ces... en fait ce qu'ils vous ont
quand
la direction
voitures...
de RTL est très
mais non mais quand
vous,
va
vous
dans
avez
ces...
pris des risques
quand on va dans ces voitures, on a le réflexe de nos voitures entre guillemets traditionnelles et qui sont de plus en plus équipées, qui ont des systèmes de sécurité absolument dingues. Il y en a sur ces voitures là, mais vous passez quand même à un niveau inférieur. Et alors, c'est trompeur, parce que d'extérieur, vous allez la voir, vous voulez aller la voir, on dirait vraiment une voiture actuelle, une petite voiture. Elle est très belle, hein. Elle est mignonne, c'est une Axam, donc c'est fait partie des grandes marques françaises avec Ligier. D'aspect, ça n'a plus rien à voir avec les voitures il y a 10 ans ou 15 ans. Hein, on se moquait de ces voitures,
bien
qui
sûr.
Ressemblaient à
Mais
rien.
Mais c'est quoi comme moteur?
Alors, c'est un moteur de 8 chevaux, donc c'est un moteur diesel, voilà.
On l'entend, oui.
Voilà. Donc c'est quand même...
Il est bridé?
Oui, c'est bridé.
Et donc, ça ne peut pas aller au-delà de quelques...
De 45 km heure. Ouais. C'est la législation.
Et là, alors, vous n'avez pas pu aller au-delà de 45.
En fait, dans les descentes, vous allez, quand vous êtes à fond, en fait, vous allez à combien, Jonathan, on était
49
bon, km.
Il n'y a pas de vitesse, c'est une automatique.
C'est une automatique. C'est une automatique. Mais en fait, certains s'amusent, entre guillemets.
C'est deux places,
à débrider ce genre de véhicule, ce qui est tout à fait déconseillé. Parce que non seulement c'est dangereux, mais en plus, en cas d'accident, les assurances ne vous couvrent pas.
Moi, ce qui m'a surpris également, c'est le prix. Hein. C'est pas donné quand même. Ça coûte 15 000 euros. Je trouve que c'est très très cher. Et on est d'accord, ce n'est toujours que deux places. Il n'y a pas de quatre places possibles.
C'est deux places.
Ça fait 2,70 m, vous disiez ?
3 mètres. Alors, 2,70 m, c'est l'ami. Donc là, c'est vraiment Rikiki.
Bon, Jonathan, comment vous avez vécu ce périple avec Monsieur Bourou ?
Très bien, on voit du paysage. J'ai les jambes qui tremblent et j'ai un peu perdu l'audition, mais ça va.
Ouais, alors, oui, ça c'est vraiment, c'est très présent quand même le moteur. Ouais. Ça c'est peut-être l'inconvénient numéro un, le moteur.
Oui, c'est le retour en arrière, en retour il y a quelques années. Où
mais pourquoi, pourquoi ça fait du monde? Ça roule moins vite.
Mais déjà, c'est petit, donc vous êtes tout près du moteur. Et puis c'est un moteur, c'est des petits moteurs, c'est à l'ancienne. Donc
mais oui,
ça,
pourquoi,
ça vibre.
Mais ça, j'imagine quand même que tu pourrais mettre un autre moteur.
Oui,
je
mais il y a tout un système dans les voitures actuelles d'insonorisation, de travail sur l'acoustique qui est fait.
là, c'est
là,
moins
c'est pas fait.
Bien fait.
Bon, autrement, vous avez la radio à l'intérieur, vous avez le chauffage, vous avez...
Il y a même un écran tactile, caméra de recul, ils équipent les voitures de plus en plus.
Et ça coûte vraiment 15 000 euros, vous trouvez, ou c'est cher pour ce que c'est ?
Je pense que je pense qu'il doit faire une belle marche sur ce type de voiture. Quand on sait que sur une Clio ou une Peugeot 208, les constructeurs Renault et Peugeot font 4-5% de marge, j'imagine que là, c'est facilement le double.
Oui, alors ça, c'est un sujet tabou, hein, les marges du constructeur. Ah, oui. Si vous arrivez à savoir le prix de revient d'une voiture de chez Peugeot, de chez Audi ou de chez Mercedes, le prix de revient. Hein, je ne parle pas de après quand c'est vendu dans la. Ça, c'est un sujet tabou absolu. J'ai essayé 10 fois de savoir ça. Je n'arrive pas à savoir combien une voiture coûte lorsqu'elle sort de l'usine.
Alors, vous savez quelle est la voiture, entre guillemets, la plus populaire et la plus rentable ? C'est la Dacia. C'est la Sandero, par exemple, parce qu'ils font une marge d'à peu près 10%, ce qui est beaucoup.
Bon, bah, écoutez, là, j'ai un texto donc, de Franck Moulin et Jacques Esnou qui me dit que vous repartez à l'instant pour d'autres destinations. La prochaine fois, en trottinette.
Paris-Marseille.
Mais vous étiez ensemble déjà quand vous avez fait Paris-Saint-Malo ?
Oui. Ouais.
Mais vous commencez à bien vous connaître tous les deux quand même, parce que vous passer du temps, vous avez une conversation je veux dire, durant tout le trajet, c'est intéressant.
On est très concentré sur l'antenne. Hein,
oui.
Et puis on vous écoute, Pascal, c'est ce qui est vrai.
Effectivement. 14h08, la pause, restez quelques secondes si vous voulez avec nous, et puis on se dit au revoir après.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Voyage.
Voyager, ils sont allés à Saint-Malo en voiture électrique, ils sont allés à Chartres en petite voiture, il y avait Jackie X et Claude Brasseur, il y a désormais Christophe Bourou et Jonathan Griveaux. Qui conduit le plus d'ailleurs ? Qui pilote le plus ?
C'est Jonathan. Bah oui. Parce qu'il faut que je sois à l'antenne, donc je respecte la...
Mais de temps en temps, vous conduisez quand
bien
même.
Sûr, bien
oui.
Sûr.
Oui. Donc c'est Jonathan qui
la
conduit.
La technique et la conduite.
Ah oui,
qui conduit parce le que plus. Parler en même temps ou conduire, c'est pas vraiment conseillé.
Je crois que c'est oui, en plus,
interdit.
Et puis c'est vrai que c'est plutôt interdit. Bah, on vous remercie, et puis on cherche le prochain périple que vous allez faire, en trottinette, ça serait pas mal d'être en trottinette dans Paris, de voir si c'est dangereux, si on arrive
à
se faufiler.
On vous réserve une belle surprise.
Et puis, en vélo, je vous vois bien partir en vélo, vous voyez, faire 200-250 km d'un coup en vélo. Faites un peu d'entraînement, évidemment, mais également pour le 1er juillet, ça serait pas mal que vous alliez dans le sud de la France.
En tandem électrique.
Damien Béchiot en tandem. Merci, parce que je vous assure, en fait, c'est ça la radio. Et alors c'est intelligent, c'est utile, hein, et c'est vrai que c'est aussi passionnant. On se dit tiens, à quelle heure ils vont arriver, et puis vous racontez ça vraiment très très bien, Christophe, donc c'était un plaisir.
Merci, et je voulais juste remercier aussi les auditeurs. On a eu pas mal d'auditeurs, notamment à Chartres, qui nous ont accueillis, qui nous ont offert le café, qui nous ont suivis toute la matinale sur
si vous buvez des cafés à l'œil en plus, donc ça c'est bien. Ils vous ont donné des petits cadeaux, des petits gâteaux, des choses comme ça.
On a eu droit à croissant et pain au chocolat.
Bon,
mais franchement l'accueil génial. Merci beaucoup.
Merci vraiment Jonathan, merci Christophe, il est 14h12.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Nous avons un sujet télévision. Combien d'heures vous regardez la télévision ? J'ai l'impression d'ailleurs que ça bouge pas beaucoup à travers les années. On est autour de 3h30, 3h45 par jour. Nous sommes avec Elisabeth. Ah ben, on a deux Elisabeth. Donc il y a Elisabeth à Garches et Elisabeth en Indre-et-Loire. Donc on va prendre peut-être Elisabeth à Garches parce qu'elle a peut-être vu passer la voiture de Christophe Bourou. Il est passé par Garches tout à l'heure. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Pascal. Non, j'ai pas vu.
Bon.
J'ai pas vu. Mais
combien d'heures vous regardez la télévision par jour ?
Je regarde probablement plus de 4 heures. Mais je m'interdis de regarder avant 18 heures. Je commence vers 6h moins le quart, parce que justement, comme j'adore ça, je ne veux pas être... Je lis beaucoup, je fais d'autres choses, donc... Mais je la regarde énormément à partir de cette heure-là.
Bah, Elisabeth, par exemple, aujourd'hui, vous n'avez pas encore allumé la télévision.
Non, je l'ai nulle. Je ne vous cache pas pour C'est dans l'air, une émission que je regarde tous les jours. Et elle commence à 6h15. Et non, parce que sans ça, sauf une après-midi de novembre pluvieuse où j'allume la télévision. Mais sans ça, non, je préfère...
Alors, votre programme, justement, télé, vous commencez à... C'est à 18h, c'est dans l'air ?
Oui, sinon,
c'est l'émission
regarde,
de Caroline
ouais.
Roux.
Voilà, ouais, bon. Je la regarde tous les soirs. Ouais.
Tous les soirs, vous regardez.
Oui. Bon. Enfin, donc, ça dépend. Il y a des sujets qui ne me plaisent pas, mais bon, j'essaye de regarder.
Donc, de 18h à 19h. Ça, c'est le premier programme.
Oui.
Ensuite.
Alors, ensuite, je peux aller sur ce qu'on appelle les télévisions de news.
Les chaînes infos.
Voilà, les chaînes infos.
Donc vous allez sur CNews, sur BFM, sur LCI.
Oui, sur LCI. Voilà,
et là, qu'est-ce qui fait que vous choisissez l'une ou l'autre?
Les invités.
Ah.
Les invités et le sujet. Ça, c'est une évidence. Mm.
Et quels sont, par exemple, les sujets que vous aimez? Par exemple, le Covid, vous restez dans ces cas-là ou vous zappez?
Non, j'en peux plus.
D'accord, donc vous zappez. La politique, vous restez ou vous zappez?
Je reste.
Donc, ouais. D'accord. La politique étrangère, vous restez?
Alors, je reste, oui.
Vous restez aussi?
Oui, il n'y en a pas assez d'ailleurs, je trouve. Mm. C'est pas des sujets qui sont traités à l'heure actuelle avec le problème de la Russie. Je trouve qu'on prend ça par-dessus l'épaule. Enfin,
c'est vrai qu'on a le sentiment que le public est moins réceptif à ces sujets-là qu'à des sujets de politique française ou des sujets de société française.
C'est peut-être moi qui me trompe un peu. Mais,
non, vous ne vous trompez pas, vous avez forcément raison pour vous, mais comment dire, le grand public peut-être n'est pas toujours passionné par l'actualité étrangère. On va laisser passer une pause, si vous le voulez bien, Elisabeth, et on continue cette discussion avec vous. À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
À 14h17 avec Monsieur Olivier de la page Facebook.
Sur nos réseaux sociaux, Pascal, sur la télévision, Monique nous écrit « Je regarde la télé une quinzaine d'heures par jour quand même. »
Quinzaine d'heures?
Oui, quinzaine, c'est énorme. Christine, à l'inverse.
Du coup, elle fait que ça. Vous êtes sûr que c'est pas par semaine?
Mais non, c'est marqué par jour, Pascal. Après, je vérifierai auprès de l'INSEE. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est ça. Christine, à l'inverse, nous écrit « Il y a trop de publicité aujourd'hui à la télévision, donc je la regarde de moins en moins. » Et on conclut avec Thierry, je regarde la télé à peu près une dizaine d'heures par jour, dont 9 à dormir devant. Ah oui, c'est quand même pas très efficace.
Et vous avez remarqué que les gens qui n'ont pas la télévision, ils sont toujours très fiers de dire qu'ils n'ont pas la télévision.
Et pourquoi?
Mais je ne sais pas.
Ah, d'accord.
Ils vivent ça comme une fierté. C'est la première chose qu'ils disent. Ils disent, ah, moi j'ai pas la télévision.
Ah non, moi je dors avec la télévision, c'est pour vous dire.
Vous dormez?
Elle est allumée pendant que je dors. Non, c'est vrai.
Et pourquoi ça?
Mais ça me. Voilà, j'adore ça. Je l'aime à côté de moi, comme un bruit d'ambiance.
C'est-à-dire que vous n'éteignez pas la télévision
non,
la nuit?
Non.
Mais vous, le son...
Ah mais ça ne me dérange pas, je n'entends rien.
On comprend pourquoi il dort seul.
Je pense que votre cas, chaque jour, on comprend
grave.
Que
ouais,
ce cas est quand même très,
merci,
très, très
Pascal,
particulier.
C'est gentil.
Bon, on termine avec Elisabeth qui habite Garches. Donc vous disiez, 18-19, c'est dans l'air. 19-20, un petit tour sur les chaînes infos, en fonction des invités. 20-21, qu'est-ce que vous faites?
La 2. Je regarde la 2, je regarde le journal de la 2.
D'accord. Et là, après, vous choisissez un programme pour la soirée.
Voilà, je choisis à l'avance. Je suis en majorité 80% de cinéma. Mmh. Je suis une fan de cinéma, surtout américain en plus. Et puis maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de bons programmes. Par exemple, la 3 fait des petits films, qu'est-ce que ça s'appelle, Crime A, ou avec de très bons acteurs.
Bon, hier soir, vous avez regardé quoi?
Eh bien, hier soir, j'ai regardé ce jeune acteur qui est mort, donc j'ai regardé Saint-Laurent.
Mmh. C'était diffusé sur quelle chaîne?
Sur les petites chaînes de Canal+. Vous savez, il y a un petit bouquet Canal. Donc
il y a eu, effectivement. Vous savez qu'avant, quand on était enfant, quand il y avait une personnalité qui décédait, quand une personnalité comédienne, il y avait immédiatement un hommage qui était rendu le soir.
Ouais.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Bon, regardez la 6, il y a souvent des bons programmes,
Non,
Elisabeth.
Écoutez, je vais vous dire, je suis un petit peu... La 6, je suis en train de me dire, c'est votre chaîne un peu, la 6. Donc, Isabelle Morelli-Bosque dit toujours, il faut regarder, mais non, il faut nous laisser regarder. Mmh. Déjà, j'écoute RTL, depuis, je suis une fidèle des fidèles, mais non, il ne faut pas nous forcer à regarder la 6.
Ah bah non, on ne force à regarder personne, mais on vous dit les excellents programmes qu'il y a. Il y a souvent, par exemple, des programmes intéressants, ça va de Capital avec notre ami Julien Courbet, le soir.
Il y en a un que je regarde le dimanche soir qui est à 22h avec des sujets qui sont très très bien. Ça, j'aime beaucoup.
Bon, après la première partie de soirée, est-ce que vous poursuivez encore ou est-ce que là vous éteignez?
Non, je peux aller jusqu'à 1h du matin sans problème.
Ah oui, donc qu'est-ce que vous faites alors après le film?
Eh ben, je regarde un autre film.
Ah oui, à vous enchaîner avec deux films.
Et
à 1h, donc vous vous couchez tous les soirs vers 1h du matin?
Je suis un peu comme le jeune homme à côté de vous, j'ai tendance à m'endormir devant.
Bon,
Bah écoutez, c'est un bruit que j'aime.
Bah c'est intéressant de voir comment les uns et les autres fonctionnent avec la télévision. Alors, ouais. Elisabeth II, si j'ose dire, parce que vous étiez Elisabeth Ière, mais il y a Elisabeth II qui est là, qui habite l'Indre-Loire.
Oui, alors on a oublié de parler, enfin moi, ma thérapie journalière, alors là je vais encore vous faire rire, ça m'ennuie quand même, parce que je vous fais toujours rire, mais ma thérapie journalière, alors je regarde d'abord bien sûr C'est à vous, après je vais sur
C'est à vous, c'est Anne-Elisabeth Lemoine. C'est oui. pas C'est dans l'air, hein.
c'est
deux émissions.
Vous,
donc c'est à vous avec, il y a Pierre
après,
Lescure, il y a...
Je vais sur un journal, je le regarde un quart d'heure, c'est toujours la même chose, souvent, et après je fonce sur l'heure des pros.
Bon, ah oui, mais oui, mais là, c'est, oui, donc
et
ça, c'est très gentil.
Je voulais vous dire que ma belle-fille, la gentille, est amoureuse de Gilles William. Bon, je sais pas pourquoi, mais enfin... Bah, elle,
moi non plus, je sais pas pourquoi, mais bon, ça lui fera plaisir quand même.
Vous pourrez lui dire que quand même, il y en a une jeune femme, voilà. Bon,
quel âge elle a?
Ma belle-fille, elle a 50 ans.
C'est votre belle-fille que vous aimez bien? Parce que vous aviez appelé l'autre jour, vous avez deux belles-filles, il y en a une que vous aimez pas, je crois.
Oui,
je me souviens, elle n'est pas venue à Noël, c'est celle-là.
Oui, et celle que j'aime bien sûr, et celle que j'aime pas tellement, si elle entend ce que je vais dire après, elle va dire, ça m'étonne pas. Parce que je voulais vous dire aussi que donc je regarde les séries, je regarde... Mais alors, non, alors ce que je voulais dire tout de suite, personne le dit, ce sont les horaires inadmissibles des films. Inadmissible.
Ça commence à 21h05 et c'est trop tard.
À 21h10.
Oui, je suis d'accord. Ça, c'est inadmissible, mais ça fait 50 ans qu'on entend la même chose.
Ah oui, M. Sarkozy avait dit qu'il faut que ça soit à 8 plus tôt. Ça n'a pas été fait.
Bon. C'est inadmissible, donc, je suis d'accord.
Donc, moi, on a trouvé le truc. Nous, mon mari a investi dans un disque dur. Donc, on enregistre tous les programmes. Je ne regarde jamais le programme du soir. On zappe sur la pub. Donc, on regarde, ma conclusion, on regarde aucune pub. Et ce qui est bien avec ce truc-là, on me téléphone, j'arrête. Après, je peux reprendre.
Ah oui.
Une souplesse terrible. Mais le problème, c'est que dans les maisons de retraite, les retraités ne peuvent pas investir. Ça coûte cher. Bon, la suite. Donc, ma thérapie journalière, ce sont, vous êtes bien assis, les feux de l'amour.
Ah ben, les feux de l'amour, c'est magnifique.
Ah, bon, parce que moi, je ne suis pas hypocrite.
Non.
Moi, j'enregistre, parce que je ne vais pas regarder à 11h. J'enregistre, et je ne vais pas les rater, j'enregistre les feux de l'amour, et je les regarde après déjeuner.
Mais c'est de combien? C'est le 887e épisode, ça n'en finit pas, les feux de l'amour.
Ah ben oui, c'est pour ça, on peut en rater un ou deux.
Ah ben oui, moi, j'en ai raté 15 années de suite, j'en ai raté. Bon, je vous embrasse, Elisabeth, parce qu'on est en retard.
Donc, ben voilà, c'est tout ce que je voulais
dire.
Et
vous nous rappelez pour nous parler, je voudrais. Ça, vous pouvez nous rappeler demain pour votre belle-fille, ça m'intéresse de savoir si ça va mieux.
Mais
laquelle? Ben là, celle que vous aimez pas, moi j'aime bien, ça m'intéresse.
Oui, mais vous savez, c'est très long, c'est très. Elle est méchante, alors donc, si vous voulez, moi je veux bien.
Bon, il est 14h24. Il est 14h24, c'est le débrief. Et.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Vous avez rendu hommage dès le début de l'émission à Gaspard Ulliel. À seulement 37 ans, l'acteur est brutalement décédé après un accident de ski. L'hommage de Yann au Standard.
Gaspard Ulliel, c'est l'éternel jeune homme du cinéma français. C'est l'idéal masculin qui a rejoint Gérard Philippe, qui a rejoint James Dean. Et qui va tellement, tellement nous manquer.
Il y a chaque année en France entre 130 000 et 140 000 accidents sur les pistes. Une question est revenue ces dernières heures. Le ski est-il plus dangereux qu'avant? L'avis d'Emmanuel.
Je suis revenu du ski hier. Moi, j'avais jamais fait de ski. J'ai 56 ans. C'est l'anarchie sur les pistes. Les gens n'ont pas du tout de casque. Les gens vont sur les pistes vertes de débutants. Les gens confirmés vont sur les pistes vertes. Ça double de tous les côtés. Mais c'est l'enfer. C'est infernal.
Et mesdames, messieurs, RTL a lancé un défi ce matin à Christophe Bourreau et Jonathan Griveaux. Réaliser le trajet entre Paris et Chartres avec une voiture sans permis. Départ un peu avant 5 heures pour un peu plus de 100 km de bonheur. Et là, je peux vous dire qu'ils ont tout connu pendant leur trajet.
On a parcouru à peu près 6 km, on est à Suresnes. Et là, à l'instant, c'est une route limitée à 50. On a été flashé à 33 km/h, alors que nous sommes à fond, puisque ces véhicules sont limités à 45. Donc là, c'est impeccable.
Ils en ont profité aussi pour faire un peu de tourisme. C'est sympa, tiens, avant 6 heures ce matin.
On est juste devant le château de Versailles. Alors, à l'époque de Louis XIV, ils étaient avec des chevaux. Nous, on a 8 chevaux sous le capot.
Ce qu'on entend derrière, là, c'est le moteur de...
C'est exactement ça. Il n'y a pas de bruitage, je vous promets.
Vitesse de croisière, 45 km/h au maximum. Le temps paraît très long. Ah mais vraiment, hein.
Et là, d'ailleurs, Jonathan vient de bâiller. Hein, je le dis à l'antenne, il vient de bâiller. Mais il faut quand même avoir de l'attention parce que il y a des voitures qui nous suivent et vont commencer à pas être contentes parce que, évidemment, on roule pas vite.
Ah oui, si vous aviez un rendez-vous ce matin près de Chartres et que vous êtes tombé sur Christophe et Jonathan, représentants de la chanson de Bibi. Tout doucement, sorti de ses draps. Oh, vous avez dû vous défouler, vous énerver au volant. Ah oui, bon, à mi-parcours ce matin, ils se sont fait quelques amis.
En train d'enquiquiner pas mal de monde. Là, je regarde dans le rétroviseur, il y a une vingtaine de voitures. Oh oui, au moins une vingtaine de voitures qui nous suivent, dont l'une qui nous colle vraiment avec un gros appel de phare. Mmh. Allez-y, monsieur, passez, voilà.
Bon, vu le bruit de la voiture qui ressemble à une tondeuse, vous en avez profité, Pascal.
Est-ce que vous pouvez passer par ma maison parce qu'il reste de la pelouse à tondre encore. Mais bon, allez loin.
Le message est passé et à 14h01, les aventuriers sont de retour à la maison.
Les voilà, Christophe Bourou et Jonathan Griveaux, ils viennent de rentrer de Chartres.
Mission accomplie, un autre aventurier de l'extrême, Monsieur Boubouk, qui n'a pas été à Chartres cet été, mais un autre endroit.
Je ne sais pas où vous allez en vacances d'ailleurs.
Écoutez Pascal, moi je suis déjà allé au Cap d'Agde en vacances.
tiens, que peut-on faire au Cap d'Agde?
Non, mais vous êtes allé au Cap d'Agde, vous n'êtes pas allé dans le village naturiste, rassurez-moi.
Oh non, Pascal, voyons.
Non, voyons pas, monsieur Boubouk.
Bah, je ne sais pas, le Cap d'Agde, c'est connu comme cela.
Bah, écoutez, mais j'étais pas au courant,
Si vous êtes entré dans le village naturiste et que vous n'étiez pas au courant de ce qui s'y passait, ça a pu vous surprendre.
Vous avez l'air quand même de bien connaître le sujet, ami Pascal.
Je n'ai vu que des reportages, bien évidemment, je suis peu dans le sud-est de la France.
Évidemment, Pascal, des reportages.
Évidemment.
Bon, on ne va pas se quitter sans lancer un nouveau défi à notre Christophe et notre Jonathan.
Alors la direction d'RTL m'informe que vous allez aller à Chartres en trottinette électrique. C'est votre prochain voyage, je voulais vous le dire.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson du succès pour Christophe et Jonathan.
C'était très sympa en tout cas et très instructif également de les écouter. Il va être 14h30 dans une seconde, Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime.
Et l'heure du crime aujourd'hui, la diabolique du Cap d'Antibes, Geneviève Montillé. C'est tout de suite dans l'heure du crime.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic